BPM, l'association de la semaine.
Et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission, l'association de la semaine. Et cette semaine, nous recevons la Bourgeot Racing Team présentée par Alexandre Bourgeot. Tout d'abord, bonjour Alexandre, comment allez-vous ?
Bonjour, bah parfaitement bien.
Ça va très bien, il fait beau en ce moment, j'imagine que pour votre discipline, c'est quand même plus agréable.
C'est clair, on évolue forcément dans les conditions un peu plus estivales, donc le beau temps annonce la sortie de garage de nos bateaux.
Alors, avant de parler de tout ça, de vos bateaux, de la BRT même, de la Bourgeot Racing Team, on va quand même parler un petit peu de vous, Alexandre. Qui êtes-vous tout d'abord pour nos auditeurs ?
Alors, Alexandre Bourgeot, donc moi je suis né à Vernon, voilà, en 1981, donc je suis vraiment quelqu'un de local. J'habite sur le haut du plateau de Vernon, la Heunière, et j'évolue dans la région, dans le domaine du motonautisme depuis une vingtaine d'années, donc notamment avec les 24 heures de Rouen, et les anciennes dernières courses sur la région vernonnaise, hein, qu'il y avait eu dans les années 2000. Donc voilà.
Le motonautisme, c'est quand même une passion un peu particulière, on va dire, entre guillemets, mais d'où est-ce qu'elle vous vient, cette passion ?
Alors, elle vient depuis tout petit, parce que j'avais un de mes oncles, Robert Bourgeot, qui évolue en championnat de France et qui a eu un record du monde de vitesse dans les années 82-83. Voilà. Donc, j'étais en poussette sur les parcs à bateaux. Voilà. Et du coup, ça a généré une passion et j'ai commencé à l'adolescence en tant que mécanicien sur les 24 heures de Rouen. Et j'ai franchi le pas à l'aube de mes 21-22 ans en tant que pilote sur cette épreuve mythique. Et j'ai franchi tous les steps de l'évolution du motonautisme à créer notre team et puis notre infrastructure, à démarcher des partenaires, trouver des budgets, ouais, et d'aller de plus en plus loin dans l'aventure avec l'équipe. Parce que c'est avant tout un gros travail d'équipe.
Quand on parle de motonautisme, j'imagine qu'il y a différentes compétitions, différents formats, différents critères, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, donc il y a le format endurance, donc on connaît bien avec les 24 heures de Rouen, et on a des courses aussi en Pologne d'endurance de 6 heures et 12 heures. On a une partie en championnat de France, comme tout autosport, hein, et on a une évolution sur l'international avec un championnat du monde aussi qui existe. Et tout ça sous forme de différentes catégories. Donc il y a la Formule 1, la catégorie Rennes, la Formule 2 et la Formule 4. Voilà.
Dans le même principe que ce qu'on peut voir sur les pistes avec des voitures, quoi.
Exactement. C'est les longueurs de bateau qui changent un peu et les puissances des moteurs tout simplement.
Et donc vous êtes, on vous retrouve en Formule 1 motonautique aujourd'hui au sein de la Maverick Racing Team, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors c'est tout nouveau depuis l'année dernière. On a notre équipe avec nos bons résultats. On a été approché par l'écurie Maverick qui nous a permis d'avoir une chance en Formule 1 l'année dernière. Donc on a fait nos armes sur trois courses l'année dernière qui s'est très 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 bien passé puisque la première course on termine à la 6e place. Donc pour une première c'était un peu c'était vraiment une grande joie pour nous parce que il y a eu un gros travail de préparation auparavant et ça a payé tout de suite. Voilà. Après, on a évolué sur deux autres courses, dont la dernière qui s'est malheureusement mal passée parce qu'on a cassé le moteur. Bon, ça, c'est le joie des sports mécaniques.
C'est
ça,
les aléas, voilà.
Ça fait partie du jeu, mais justement, c'est la phase d'apprentissage qui arrive pour justement ne plus commettre d'erreurs, ces erreurs-là. Voilà.
Donc on va vous retrouver à nouveau cette saison en Formule 1.
Exactement, le démarrage de la saison commence avec la première course de Formule 1 qui notamment va se dérouler à Mâcon en France. Donc ça c'est vraiment un bel événement pour la région mâconnaise aussi. Début juin et après on va évoluer sur l'Italie fin juin, début juillet et entre deux il y a les courses du championnat de France qui vont arriver aussi.
Les courses du championnat de France, du coup, c'est avec votre écurie Bourgeot Racing Team, c'est ça ?
Exactement, on évolue en Formule 2, là, du coup, puisqu'il n'y a plus de Formule 1, entre guillemets, en France, en championnat de France, notamment. Donc, on évolue en Formule 2 et en championnat de France de vitesse, voilà. Donc, on engage un ou deux bateaux, parce que j'ai un autre pilote aussi dans le team, Jean-Baptiste Goulet, qui évolue aussi avec nous sur le deuxième bateau en championnat de France. Et on va retrouver une course à Sœur près de Dijon et une course à Caen pour l'instant qui sont programmées.
Pour l'instant, il n'y a que deux courses de programmées. Il y en a d'autres.
Alors, qui sont en étude, hein, voilà, parce qu'après, avec le redémarrage de, bah, des événements sportifs par rapport aux autres années, il y a toujours une remise en route de la grande machine, voilà. Et après, on a aussi la partie 24 heures de Rouen qui est programmée à mi-septembre, là, sur vraiment la grande course d'endurance, l'événement, le gros événement, entre guillemets, sur la France et puis aussi sur le monde, puisque c'est une épreuve d'endurance sur mondiale. Voilà.
Oui, c'est comparable avec les 24 heures du Mans pour.
Complètement. C'est fonctionnement similaire. Toutes les catégories sont engagées et on tourne sur le circuit. Alors, il y a des petites séparations sur le circuit, mais on est tous ensemble sur le même circuit et on fonctionne pendant 24 heures. Voilà, c'est au plus grand nombre de tours sur les 24 heures. On est en équipage de 3 ou 4 pilotes selon les équipes. Nous, on est à 4. Voilà. Et c'est vraiment une épreuve significative pour nous.
Sur les circuits, parce que c'est un peu plus compliqué à imaginer, mais on se retrouve à dessiner les circuits comme ça ici, par exemple, pour les 24 heures de Rouen, sur la Seine, avec, j'imagine, des bouées pour vous aider.
Alors, exactement. Alors, il y a la géographie aussi des sites qui permet de faciliter ça, notamment sur les 24 heures de Rouen, on fait le tour de l'île La Croix.
Oui, forcément. Voilà.
Et on a plusieurs bouées qui dématérialisent le circuit des Formule 4 et des Formule 2. Voilà. Après, sur les autres circuits, en championnat de France ou championnat du monde, par exemple, en Formule 1, on se retrouve avec des circuits avec 7 ou 8 virages. Voilà, donc c'est des bouées de couleurs différentes qui matérialisent les bouées, les virages intérieurs ou extérieurs de notre trajectoire. Voilà.
Donc ce sont vos seuls repères visuels avec éventuellement les berges.
Voilà, aussi. Alors repères visuels, oui. Alors les circuits font généralement 1,6 km, 1,8 km. Hormis la partie 24 heures qui est un peu plus longue. Mais généralement, c'est les circuits en championnat de France et championnat du monde sont ont des lignes droites de aux environs de 750 mètres. Mmh. Sinon, après, on a des vitesses de pointe qui sont trop élevées, donc on réduit les distances aussi. Et on travaille énormément sur l'accélération. Pour vous donner un ordre d'idée, en Formule 1, le circuit d'un kilomètre 7 avec 7 ou 8 virages, on le fait en 40 secondes, voilà, à 175 km/h de moyenne.
D'accord, donc ça va très très vite quand même.
Il y a beaucoup d'accélération, ouais, effectivement.
C'est pour ça que j'imagine que tout le travail de fiabilité aussi autour du moteur est ultra important.
Alors, c'est primordial, oui. C'est vrai que Formule 1 ou Formule 2, on travaille avec le staff, avec l'équipe à fiabiliser ces moteurs-là. En Formule 2, on est arrivé à un degré de fiabilité, alors grâce notamment aux 24 heures de Rouen et aux épreuves de championnat de France, et on casque très très rarement notre matériel. Donc ça, c'est vraiment un réel avantage. Là, on se fait nos armes sur la Formule 1, donc on évolue là-dessus avec la préparation de nos moteurs, et donc on est en phase vraiment apprentissage de ce côté-là. Et sur la partie championnat de France endurance, on est en maîtrise. Maintenant, on cherche vraiment la performance et on cherche la victoire, parce que ça fait depuis les trois dernières épreuves qu'on finit trois fois deuxième. Donc là, c'est
oui, la prochaine étape, c'est la première.
On cherche la première. Oui, ça c'est clair.
Justement, pour la BRT, du coup, Bourgeois Racing Team, pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de lancer votre propre écurie?
Alors, c'est une association qui date depuis, qui a été créée en 2006, tout simplement. Parce que avant, quand j'ai commencé, j'allais courir chez d'autres teams. Donc voilà, je louais mon volant pour essayer d'aller courir sur les épreuves. Et finalement, on était toujours déçus par la préparation, par la fiabilité. Et donc, ça a commencé avec une bande de copains. On a monté l'association et faire la préparation par nos propres moyens. Et au moins, on savait à quoi s'en tenir. On savait où on allait avec notre matériel. Et généralement, si on commettait des erreurs, on savait que c'était vraiment de notre fait.
Vous pouviez vous en prendre qu'à vous-même.
Voilà, c'était de notre fait. Et finalement, ça nous a permis d'évoluer et de nous donner des réels objectifs qui nous mènent à notre place ici aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que c'était un choix positif et dans la durabilité, je pense que ça serait à refaire, on le referait. Quoi. Ça, c'est clair.
Du coup, votre team aujourd'hui est assez réputé en France, j'imagine.
Oui, on est un incontournable maintenant. Hein. C'est vrai qu'on est un team incontournable. On sait que quand notre team est sur le plan d'eau, bah, généralement, c'est pas pour faire les dernières places, voilà. Donc oui, ça c'est clair, on est toujours là pour briller sur les podiums. Donc on prend du plaisir avant tout, hein, avec l'équipe, l'ensemble de l'équipe à évoluer dans le, dans le motonautisme, mais c'est vrai qu'on cherche les podiums et les titres, ouais, ça c'est clair.
Le motonautisme, dit comme ça, c'est pas un sport ultra médiatisé, hormis les 24 heures de Rouen en France, qui sont quand même plutôt connus aussi. Du coup, il n'y a pas trop de difficultés, alors ne serait-ce que pour trouver des partenaires, des sponsors déjà?
Alors si, effectivement, c'est vrai que le motonautisme n'est pas un sport très connu ni médiatisé. Donc ça, c'est vraiment c'est le point crucial, c'est vrai, c'est de trouver les partenaires. Alors c'est par la notoriété, par les journaux, la radio, c'est vrai que plus on parle de nous, plus ça nous facilite et nous ouvre des portes, ça c'est clair. Faut pas se le cacher. Et après, nous, on a la chance de faire énormément de choses par nos propres moyens. Donc en termes de budget, on arrive à serrer nos comptes pour pouvoir évoluer sur l'ensemble des épreuves et de dépenser le moins par rapport à ce qu'on arrive à réaliser. Voilà.
Du coup, il y a beaucoup de teams que vous retrouvez sur la scène nationale déjà?
Oui, oui, on a un autre team français, le team à Philippe Chiap, qui évolue notamment sur les 24 heures de Rouen aussi, et qui évolue aussi en Formule 1, avec le team Chaizen, avec un team qui est de provenance de Chine, mais qui est basé à La Rochelle, voilà. Et le team Maverick, hein, on est les seuls Français qui évoluent sur la scène internationale, sur la Formule 1. Et sur les 24 heures de Rouen, on a quelques teams étrangers, dont notamment Abu Dhabi, qui engage deux voire trois bateaux selon les saisons. Voilà.
Au niveau des courses, alors on va revenir sur le championnat national du coup de F2. Au départ, il y a combien de bateaux?
Au départ, alors c'est vrai que les années précédentes, on était généralement sur notre catégorie entre une quinzaine de bateaux à peu près.
D'accord.
Là aujourd'hui, leur démarrage est un peu compliqué. On est plutôt moins d'une dizaine de bateaux parce que les teams ont souffert aussi de difficultés financières par rapport aux partenaires, aux entreprises, etc. Donc c'est pas forcément évident d'arriver à aligner des bateaux aujourd'hui en championnat de France. Donc ça, c'est une réelle difficulté pour tous, hein, qui est partagée. Ne serait-ce qu'aussi pour les organisateurs de trouver les fonds pour organiser en termes de sécurité, etc.
Oui.
Les courses, c'est réellement une difficulté pour tous. Donc, c'est vraiment une grosse bataille justement pour organiser et aligner des bateaux. Ça, c'est clair.
Vous parliez de la sécurité, du coup. J'imagine que il y a quelques années, c'était pas aussi sécurisé qu'aujourd'hui. Il y a dû avoir beaucoup de travail autour de ça.
Alors, c'est clair, oui, c'est vrai que il y a 25 ans, le bateau, le motonautisme était un peu accidentogène avec des normes de sécurité qui n'étaient pas aux attendues. Hein.
À l'image de la F1,
exactement.
L'image du sport automobile aussi.
Exactement, exactement. Et il y a eu un énorme travail de fait par les constructeurs de bateaux, hein, notamment en France. Hein. On a un constructeur de bateaux qui est aux Andelys, hein, qui est pas très loin. Et les cockpits de sécurité ont énormément évolué avec des vrais cockpits renforcés avec des crash box qu'on appelle sur les côtés latérales du bateau pour éviter les chocs latéraux.
Qui permettent d'encaisser les chocs.
Voilà, exactement. On a tout un système de fermeture, de verrouillage, de déclipsage des canopies. C'est la partie haute du bateau pour nous extraire. On a un peu le principe du halo qui a été conçu dans les années 2008-2009 quand les bateaux, on les a fermés, parce qu'avant on conduisait en partie dehors, en fait le cockpit était un peu ouvert. Maintenant les bateaux sont complètement fermés et on est complètement sécurisé à l'intérieur. Donc on a des renforts en carbone tout au-dessus, autour du casque, qui permettent de vraiment, en cas de crash, de casser l'impact avec l'eau. Hein. C'est l'eau, hein, quand on s'envole à entre 150 et 200 km/h, l'impact sur l'eau, et c'est comme un mur, donc c'est vraiment ça qu'il faut absorber. Et après, à l'intérieur du bateau, on est nous-mêmes protégés, on a des harnais 6 points. Moi, j'évolue avec un casque Tiger. En fait, on a un système comme les avions de chasse, avec une réserve d'oxygène sur nous, donc qui déclenche automatiquement en contact avec l'eau. Donc, on est vraiment hyper protégés. Et on a des séances d'entraînement obligatoires tous les ans, des tests d'immersion, on appelle ça. On est dans un cockpit... Alors raccourci, hein, parce que c'est pas le bateau entier, mais on est plongé, immergé dans une piscine et on a une procédure pour s'extraire du bateau et s'entraîner à ça tous les ans. Voilà.
Oui, parce que vous avez ce masque avec...
Avec le respirateur, exactement, et ça permet de...
De rester sous l'eau.
Sous l'eau.
En attendant qu'on vous donne l'autorisation.
Voilà, et de rester calme et serein. Ça m'est arrivé personnellement une fois. Je me suis envolé à Sœur en 2017. J'ai fait deux tours en l'air. Voilà. Et c'est vrai qu'on est, on réfléchit pas, on est entraîné, on s'extrait du bateau, etc. En toute sécurité, les secours étaient là et je suis ressorti avec un petit bleu sur la jambe. Voilà.
Ça va, c'est pas grand chose.
Non, voilà, exactement. Donc c'est vrai que les figures sont impressionnantes quand on voit les crashs. C'est vrai qu'on s'imagine toujours le pire, mais on est extrêmement bien protégé à l'intérieur. Voilà.
Si on veut se lancer un petit peu dans le motonautisme, j'imagine qu'il doit y avoir toute une partie théorique déjà d'abord à apprendre.
Exactement, oui, il y a une partie. Alors ça, c'est en alliance avec les clubs et la fédération. On a des tests théoriques. Et après, alors il y a déjà des jeunes pilotes qui commencent entre 16 et 17 ans sur les Formule 4, bien évidemment, sur les plus petites catégories, et au travers de teams, évidemment, et qui permettent de faire leur apprentissage sur des courses en championnat de France. Ils commencent aussi sur de l'endurance. Il y a des petites endurances de 3 heures en championnat de France sur ces catégories-là, qui permettent de faire leurs armes avant d'évoluer sur des courses de vitesse qui vont un peu plus vite et après d'évoluer sur les 24 heures
de grandir petit à petit.
Voilà, etc. Voilà.
Et il doit y avoir aussi des permis
Oui, alors obligatoirement, pour naviguer en France, on est obligé d'avoir nos permis. Alors le permis fluvial sur la partie eau intérieure et le permis maritime pour les 24 heures de rang, parce qu'on a la zone de ravitaillement qui se trouve sur la partie maritime. Voilà, c'est
d'accord.
Juste la petite particularité.
Comment est-ce que ça se fait qu'elle se trouve sur la partie maritime, du coup ?
C'est la géographie, le classement des eaux intérieures et maritimes qui a fait que voilà, c'est à quelques centaines de mètres du circuit, tout simplement. Mais
ouais, c'est selon les zones qui délimitées au début.
Ouais, complètement, ouais. Et après, en Formule 1, à l'étranger, on a juste besoin de notre licence internationale. Il n'y a pas de permis spécifique.
La vie normale reprend petit à petit, mine de rien. La suite, c'est quoi pour vous avec la BRT et puis aussi avec la Maverick ?
Alors, c'est vrai que la période de la pandémie n'a pas été évidente. Parce que c'est vrai que pour tous, de pas concourir ou... essayer de monter les événements ont été une grande difficulté pour tous. Donc on a su s'adapter. Nous, les objectifs sont clairs. Cette année, on participe au championnat de France F2. On a engagé un bateau aux 24 heures de Rouen pour notamment gagner la course.
Voilà, faut le dire, on est là pour gagner.
On est là, on y va. Et après, on participe au championnat du monde de Formule 1. Donc on a les premières épreuves en France qui commencent le 4 et 5 juin. Et après sur l'Italie, fin juin, début juillet. Et on attend les dates sur la fin d'année où là, on essaye de viser d'être dans le top 10. Voilà, et ça serait vraiment un beau résultat en fin d'année si on y arrive. Voilà.
Sur les week-ends de course, j'imagine que c'est en plusieurs fois, c'est-à-dire essais libres, qualifications et courses.
Exactement,
après,
voilà. Alors c'est le même principe que l'auto ou la moto, on a les essais libres, on a les qualifications, les Q1, Q2, Q3, le dimanche matin on a le warm-up et après on a le Grand Prix dans l'après-midi. Voilà. On respecte exactement les mêmes procédures que l'auto ou la moto, on est vraiment sur un fonctionnement similaire. Voilà.
Et donc là, avec l'approche du beau temps maintenant, la saison, le début de saison se sent bon là.
Oui, exactement. Bah, les bateaux sont prêts. On finalise les derniers préparatifs. On va faire nos essais, je pense, début mai. On va commencer nos essais avec la Formule 1. Et un petit peu plus tardivement, au mois de juin, pour la Formule 2, puisque les épreuves sont un peu plus tardives. Donc on se concentre par étapes sur les bateaux. Le bateau des 24 heures est déjà prêt, lui, pour mi-septembre, donc ça c'est déjà quelque chose de près, donc voilà.
Merci beaucoup Alexandre Bourgeot.
Ben merci à vous, bonne journée.
Merci de nous avoir présenté la Bourgeot Racing Team, c'est tout pour votre émission l'association de la semaine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.